Chapitre 24. La fin du chapitre 23 et le début de ce chapitre 24 montrent clairement qu'aucun des disciples du Seigneur ne s'attendait en aucune manière à sa résurrection. Cela en rend le témoignage d'autant plus marqué et convaincant. Les disciples n'étaient ni exaltés, ni visionnaires, ni portés à croire n'importe quoi, mais étaient plutôt d'un esprit matérialiste et découragé, enclin à douter de tout. Les femmes nous sont présentées d'abord. Leurs pensées se limitaient aux circonstances d'un enterrement ordinaire. Leur esprit était occupé du sépulcre, du corps du Seigneur et des aromates et des parfums qu'il était coutume d'employer. Toutefois, le sabbat juif était là et interrompait leurs activités. Cela venait de Dieu, car leurs activités étaient tout à fait inutiles, et au moment où elles auraient pu les reprendre, le corps du Seigneur n'était plus là. Au lieu du corps mort, elles trouvent deux hommes en vêtements éclatants et entendent de leur bouche que le Seigneur est maintenant le vivant et ne gît plus parmi les morts. Ainsi, le premier témoignage de sa résurrection vient de la bouche des anges. Un second témoignage se trouve dans les paroles qu'il avait lui-même prononcées pendant sa vie. Il avait prédit sa mort et sa résurrection. Quand ces paroles leur sont rappelées, elles s'en souviennent. Les femmes s'en retournent et rapportent toutes ces choses aux onze, c'est-à-dire qu'elles leur présentent le témoignage des anges, les paroles du Seigneur lui-même, et aussi le témoignage de leurs propres yeux. Le corps du Seigneur n'est pas dans le sépulcre. Pourtant, ils ne les croient pas. Un sceptique moderne pourrait appeler ces choses des contes. Eh bien, c'est exactement ainsi que les disciples les reçurent. Pierre, cependant, avec son caractère impulsif habituel, va un peu plus loin. Il court au sépulcre pour voir par lui-même, et ce qu'il voit confirme leurs paroles. Pourtant, dans son esprit, c'est l'étonnement plutôt que la foi qui est produit. Le récit suivant nous amène à l'après-midi du jour de la résurrection, et Luc nous donne en détail l'histoire des deux disciples qui s'en allaient au champ, à laquelle Marc ne fait que la brève allusion des versets 12 et 13 de son dernier chapitre. Cet épisode nous donne un aperçu très frappant de l'état d'esprit qui les caractérisait, et, sans aucun doute, représentait-il les autres en cela. Ces deux disciples s'éloignaient manifestement de Jérusalem pour retourner chez eux, déçus et découragés à l'extrême. Ils avaient nourri de ferventes espérances centrées sur le Messie, et ils croyaient l'avoir trouvé en Jésus. Pour eux, Jésus de Nazareth était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et il est clair que là s'arrêtait leur foi. Ils ne percevaient pas encore en lui le Fils de Dieu, que la mort ne pouvait retenir. Et ainsi pour eux, sa mort était la fin affligeante de son histoire. Ils pensaient vraiment que c'était celui qui aurait dû délivrer Israël. Mais alors, pour eux, cela voulait dire les délivrer par sa puissance, du pouvoir de tous les ennemis de leur nation, plutôt que de les délivrer pour Dieu et par son sang. Sa mort avait renversé leur espoir de cette délivrance en puissance et en gloire. Cette déception venait de ce qu'ils avaient nourri des espérances qui n'étaient pas établies par la parole de Dieu. Ils s'attendaient à la gloire sans les souffrances. On peut trouver aujourd'hui bon nombre de croyants qui se sont égarés dans le monde d'une façon assez semblable. Eux aussi se sont éloignés parce qu'ils étaient déçus, et ils sont déçus parce qu'ils nourrissaient de fausses espérances. Ces espérances ont pu être centrées sur le travail chrétien et les conquêtes de l'Évangile, ou bien sur quelques groupes ou corps de croyants avec lesquels ils étaient liés, ou peut-être sur eux-mêmes, la sainteté et la puissance de leur vie personnelle. Quoi qu'il en soit, les choses ne se sont pas passées comme ils escomptaient, et il se trouve dans le découragement le plus profond. Le cas de Cléopas pourra aider à faire le diagnostic de leurs ennuis. En premier lieu, ils peuvent avoir, comme lui, un petit Israël qui absorbe leurs pensées. Si Israël avait été délivré, comme Cléopas l'avait espéré, ils auraient été dans l'allégresse. Comme ce n'était pas le cas, il avait perdu sa ferveur et son intérêt. Il lui fallait apprendre que, bien qu'Israël ait été au centre même du petit tableau lumineux qu'il s'était peint en imagination, il n'était pas au centre du tableau de Dieu. C'est le tableau de Dieu qui est le vrai, et son centre en est Christ, ressuscité d'entre les morts. Quand Jésus se fut joint à eux, les eut amenés à s'exprimer et eut gagné leur confiance, il leur exposa non des choses qui concernaient Israël, mais les choses qui le regardaient lui-même. Un remède sûr contre les déceptions, c'est de donner à Christ toute la place dans ce dont notre esprit est occupé. Non pas le travail, même le travail chrétien. Non pas les frères, ni même l'Église. Non pas le moi, dans l'une quelconque de ses nombreuses formes, mais Christ. Pourtant, il y avait un second point. Il est vrai que ces faux espoirs de Cléopas, qui étaient la cause de sa déception, avaient jailli du fait qu'il pensait trop à Israël et trop peu à Christ. Pourtant, cette échelle de valeur erronée provenait de la lecture incomplète de l'Ancien Testament. Le verset 25 montre que, parce qu'ils étaient sans intelligence et lents de cœur à croire, cela les avait conduits à négliger certaines parties des Écritures. Ils croyaient quelques-unes des choses que les prophètes avaient dites, ces choses agréables, évidentes, faciles à comprendre quant à la gloire du Messie, tandis qu'ils mettaient de côté et négligeaient les prédictions de ses souffrances qui, sans aucun doute, leur paraissaient mystérieuses, étranges et difficiles à comprendre. Les choses mêmes qu'ils avaient négligées étaient justement ce qui leur aurait épargné la pénible expérience par laquelle ils passaient. En leur parlant, le Seigneur insiste par trois fois sur l'importance de l'Écriture tout entière, versets 25 et 27. Il agit avec eux de façon à leur faire comprendre que sa mort et sa résurrection étaient le fondement, indiqué à l'avance, de toute la gloire qui était encore à venir. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses? Oui, certainement. Et puisqu'il devait souffrir, il avait souffert. Quelle étape extraordinaire cela a dû être! Une fois arrivés, ils ne purent supporter la pensée de se séparer de ce compagnon inattendu. Ils le supplient de ne pas les quitter. Entrant pour rester avec eux, il prend nécessairement la place qui est la sienne de droit. Il faut qu'il soit celui qui reçoit et conduit et aussi qui bénit. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Quelle joie pour leur cœur lorsque, soudain, ils discernent leur Seigneur ressuscité. Mais pourquoi disparut-il de devant leurs yeux au moment précis où ils l'avaient reconnu? Sans doute pour la même raison qu'il lui avait fait dire à Marie de ne pas le toucher au début de ce même jour. Voir Jean 20, verset 17. Il désirait leur montrer dès le départ que, par sa résurrection, il était dans une situation nouvelle et qu'en conséquence, il fallait un fondement nouveau à leur relation avec lui. Toutefois, la brève vision qu'ils ont eue du Seigneur, ajoutée à l'explication qu'il leur a donnée de toutes les prophéties des Écritures, a produit son effet. Ils sont complètement transformés. Une lumière nouvelle s'est levée pour eux. De nouveaux espoirs ont surgi dans leur cœur. Fini leur découragement et leur désir de s'isoler. Bien que la nuit soit tombée, ils reprennent le chemin de Jérusalem pour chercher la compagnie des autres disciples. Le cœur malade, ils avaient cherché la solitude. Maintenant, la foi et l'espérance étant ranimées, la compagnie des saints fait leur délice. Il en est toujours ainsi pour nous tous. Ils reviennent annoncer la grande nouvelle aux 11, mais ils arrivent pour se trouver devancés. Les 11 savaient que le Seigneur était ressuscité, car il était aussi apparu à Pierre. Les preuves de sa résurrection s'accumulaient rapidement. Ils avaient maintenant non seulement le témoignage des anges, le souvenir de ses propres paroles et la relation donnée par les femmes, mais aussi le témoignage de Simon, presque instantanément confirmé par le témoignage des deux disciples qui revenaient d'Emmaüs. Et, comble de joie, tandis que ces deux disciples racontaient leur histoire, voilà que Jésus lui-même, avec des paroles de paix sur les lèvres, se tient au milieu d'eux. Pourtant, même alors, ils ne sont pas au début entièrement convaincus. Il y avait en lui, dans sa condition nouvelle de résurrection, quelque chose d'inhabituel et qui dépassait leur compréhension. Ils sont craintifs, croyant voir un esprit. La vérité est qu'ils voyaient leur Sauveur dans un corps spirituel, ainsi qu'en parle 1 Corinthiens 15, verset 44. C'est ce qu'il se met à leur expliquer d'une manière très convaincante. Son corps avait de la chair et des os. Pourtant, quoique les circonstances soient nouvelles, ce corps devait être identifié avec le corps de chair et de sang dans lequel il avait souffert, car les marques de ses souffrances se trouvaient bien là, et dans ses mains, et dans ses pieds. Et pendant que la vérité se faisait lentement jour dans leurs esprits, il la rend encore plus claire en mangeant devant eux, afin qu'ils voient qu'il n'était pas simplement un esprit. Ainsi, la réalité de sa résurrection fut complètement attestée et le vrai caractère de son corps ressuscité fut révélé. Puis il se met à les instruire, et tout d'abord il attire leur attention sur ce qu'il avait déjà souligné par trois fois lorsqu'il s'adressait aux disciples d'Emmaüs, à savoir que toutes les choses qui sont écrites de lui dans les Écritures devaient être accomplies, comme d'ailleurs il le leur avait dit avant sa mort. Ils devaient comprendre que tout ce qui était arrivé avait eu lieu selon les Écritures, et n'était en aucune façon contraire à ce qui avait été écrit. En second lieu, il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent réellement tout ce qui avait été révélé dans les Écritures. Il semble que nous pouvons assimiler cela avec ce que rapporte Jean 20, verset 22, lorsque le Seigneur ressuscité souffla en ses disciples. Cette vie nouvelle, dans la puissance de l'Esprit, n'allait pas sans une compréhension nouvelle. En troisième lieu, enfin, le Seigneur leur montre que, possédant cette compréhension nouvelle et étant témoin de ces choses, une nouvelle mission allait leur être confiée. Ils ne devraient plus parler de la loi, mais de la repentance et de la rémission des péchés en son nom. Sa grâce allait être le thème de leur prédication. Le pardon des péchés, au nom et par la vertu d'un autre. Et la seule chose nécessaire de la part des hommes est la repentance, cette honnêteté de cœur qui conduit un homme à prendre sa vraie place comme pécheur devant Dieu. Cette prédication de la grâce doit se faire à toutes les nations et ne doit pas être limitée aux Juifs seuls, comme l'était la loi. Cependant, elle devait débuter à Jérusalem, car dans cette ville, la crucifixion du Sauveur avait mis le comble à l'iniquité de l'homme. Et là où le péché avait abondé, la grâce devait se manifester en surabondance. Le verset 46 donne le fondement sur lequel repose cette mission de la grâce, la mort et la résurrection de Christ. Tout ce qui venait de se passer, qui avait paru si étrange et comme une pierre d'achoppement aux disciples, avait été l'établissement du fondement nécessaire sur lequel l'édifice de la grâce allait s'élever. Et tout était selon les Écritures, comme il le fait ressortir une fois de plus par ses paroles, il est ainsi écrit. La parole de Dieu communiquait une autorité divine à tout ce qui était arrivé et au message de la grâce qu'il devait proclamer. Ainsi, dans les versets 46 et 47, le Seigneur inaugure l'évangile de la grâce actuelle, nous donne l'autorité, le fondement, les conditions et toute la portée de son ministère, tout en indiquant les profondeurs du péché et des besoins vers lesquels il s'abaisse. Le verset 49 nous montre une quatrième chose, et nullement la moindre. Le don à venir du Saint-Esprit en tant que puissance de tout ce dont il est question. Les Écritures avaient été ouvertes, ouvertes aussi l'intelligence des disciples, la mission nouvelle de la grâce avait été clairement donnée. Mais tous devaient attendre jusqu'à ce qu'ils possèdent la puissance par laquelle seuls ils pouvaient agir, ou employer avec sagesse ce qu'ils connaissaient maintenant. Luc termine son évangile, laissant tout, si nous pouvons nous exprimer ainsi, comme un feu bien préparé attendant l'étincelle qui le fera flamber haut et clair. Il commence la suite de son récit, les Actes, en nous montrant comment l'Esprit, à sa venue, a été cette étincelle qui a allumé le feu avec des résultats merveilleux. Nous venons de voir comment cet évangile se termine par la bonne nouvelle de la grâce qui commence à se répandre, ce qui est en contraste frappant avec la façon dont, dans les tout premiers versets, Il nous présente le service s'accomplissant dans le temple selon la loi de Moïse. Les quatre versets qui terminent cet évangile nous présentent également un contraste frappant, car le premier chapitre nous donne un tableau de gens pieux, aux espérances terrestres, attendant le Messie qui visiterait son peuple pour le racheter. Il nous montre un sacrificateur craignant Dieu, engagé dans ses devoirs sacerdotaux, mais qui n'a que peu de foi, si bien qu'il est rendu muet. Incrédule, il ne peut parler. Il n'avait rien à dire qui en vaille la peine, en tout cas pour l'instant. Les versets 50 à 53 de notre chapitre nous montrent le Sauveur ressuscité, montant aux cieux, pour y prendre son service de souverain sacrificateur. Il laisse derrière lui une compagnie de gens dont les cœurs ont été ravis de la terre au ciel et dont les bouches s'ouvrent pour la louange. Béthanie est l'endroit d'où il monta au ciel, cet endroit où, plus que partout ailleurs, il avait été compris. Il monte au ciel alors qu'il est en train de bénir ses disciples. Lorsque nous nous souvenons du jour sous lequel ceci s'était montré, ce geste du Seigneur est extrêmement touchant. 6 semaines auparavant, tous l'avaient abandonné et s'étaient enfuis. L'un l'avait renié avec jurons et imprécations, et à tous il aurait pu dire ce qu'il a dit effectivement à deux d'entre eux, « Ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire !» Pourtant, sur ces disciples sans intelligence, sans foi, sans courage, il étend les mains en bénédiction. Et bien que nous soyons très semblables à ces hommes, en dépit du fait que nous vivons à l'époque où l'Esprit a été donné, sur nous également, sa bénédiction descend encore. Le Seigneur bénit ses disciples, et eux lui rendent hommage. Ils s'en retournent au lieu qu'il leur avait fixé pour attendre la venue de l'Esprit, et ils sont continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Zacharie avait été muet, ses lèvres étaient incapables d'exprimer une bénédiction soit vers Dieu, soit sur l'homme. Jésus est monté au ciel pour remplir son office sacerdotal en plénitude de bénédiction envers son peuple. Et il a laissé derrière lui ceux qui devaient être le noyau de la nouvelle race sacerdotale. Déjà, nous les voyons bénir Dieu et l'adorer. Cet évangile nous a en vérité transportés de la loi à la grâce et de la terre au ciel.